Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Traité Hulin, page 94, Daf Tzadik Dalet. Bonne écoute et bon limoud.
Dans ce cas, même des morceaux de hanche pourraient être expédiés à un goy, car nous avons dit que dans un tel cas de figure, un Israël ne va jamais acheter de la viande d'un goy. Et là, le makom chez ma cousine, shlemanami lo lishdarle, dechatichle, ou masvinle. Mais même s'il s'agit d'un endroit où on annonce lorsqu'il y a un animal taref, la Gemara demande que même une hanche non découpée ne devrait pas être envoyée, car il est toujours possible que le goy la découpe lui-même et qu'elle soit ensuite vendue à un Israël qui va penser que le nerf sciatique a déjà été prélevé et va le consommer. Ibaitema b'makom shemachrizin, veibaitema b'makom shen machrizin. La Gemara répond, si tu veux, je peux t'expliquer l'enseignement de la Mishnah dans un endroit où on fait l'annonce et aussi dans un endroit où on ne fait pas l'annonce. Ibaitema b'makom shemachrizin, chitucha deuvet kochavin, mida yade. S'il s'agit d'un endroit où l'on fait passer l'annonce dans la communauté, lorsqu'il a été trouvé un animal taref dans la boucherie et qu'il a été vendu au goyim, et la Gemara avait dit que même si on envoie un yerer, une hanche entière, à un goy, il y aurait à craindre que celui-ci la découpe et que le juif qui vient à l'acheter après ne puisse distinguer que le nerf sciatique n'a pas été prélevé. La Gemara répond ici que le découpage que le goy est susceptible d'effectuer et le découpage que le boucher effectue lors du nikkur pour prélever le nerf sciatique sont très différents, et si c'est le goy qui a découpé, ça sera reconnaissable. Il n'y a donc pas à craindre que celui qui va acheter du goy puisse confondre, car le découpage du nerf sciatique est caractéristique. Si l'acheteur voit un autre découpage, il fera de plus amples vérifications pour savoir si le nerf sciatique a été prélevé ou non. Veibaitema bimkom she'en machrizin. Si tu veux, je peux également expliquer l'enseignement de la Mishnah dans un endroit où on n'annonce pas, lorsqu'il y a un animal taref dans la boucherie et qu'il a été vendu au goyim. Et il est vrai que dans un tel endroit, les juifs ne sont jamais amenés à acheter en principe de la viande d'un goy, car même si toutes les boucheries de l'endroit sont cachères, il est possible que la viande que ce goy détienne soit justement celle d'un animal taref qui lui a été vendu par une boucherie. Et la Gemara avait demandé plus haut, pourquoi ne pourrait-on pas dans un tel cas envoyer à un goy une hanche découpée, même si elle contient le nerf sciatique? La Gemara répond ici, Gzera shema yitnen alo bifnei Israël acher. Il s'agit d'un décret, d'une mesure préventive, prise au cas où un autre Israël le verrait en train de remettre cette hanche au goy. Cet autre Israël peut savoir également que l'animal n'est pas taref, car il a pu voir que le reste de l'animal a été vendu à un boucher cachère. Si d'autre part la hanche que l'on a envoyée au goy est déjà découpée, ce Yehudi observateur peut tout à fait penser que le nerf sciatique en a déjà été prélevé. Et comme cela n'est pas le cas, on aura entraîné sa transgression. C'est pour cette crainte éloignée que l'on enseigne dans notre Mishnah que l'on ne peut envoyer à un goy, un yerer, une hanche d'animal, que si celle-ci est entière, même s'il s'agit d'un endroit où il n'y a pas d'annonce dans la communauté, lorsqu'un animal taref est vendu au goyim. La Gemara donne maintenant une troisième possibilité de comprendre l'enseignement de la Mishnah. Veibaitema, mishum dekaganivle ledate. On ne peut envoyer à un goy une hanche contenant le nerf sciatique que si elle n'est pas découpée, non pas parce qu'il y a une crainte que ce goy le vende à un autre Yehudi, mais même si ce yerer, cette hanche, va rester chez le goy. Et la raison de la Mishnah est que si le Yehudi envoyait une hanche découpée contenant le nerf sciatique, il commettrait un acte de gnevat da'at, c'est-à-dire une malhonnêteté intellectuelle, en faisant croire à ce goy qu'il lui porte une marque d'attention particulière, en ne lui donnant un yerer qu'après avoir pris la peine d'en retirer le nerf sciatique, alors que ce n'est pas le cas, car il ne fait que se débarrasser d'un aliment qu'il ne peut consommer. Il profitera donc d'une reconnaissance de ce goy qui ne lui revient pas, et c'est le issour, l'interdiction de gnevat da'at. Littéralement, il vole cette reconnaissance. La Gemara va maintenant développer ce sujet, car notre daf est l'un des endroits principaux du Talmud où l'on parle de gnevat da'at. Nous considérons donc la traduction de Gneva Dat acquise pour le reste du cours. La Gemara continue. De'amar Shmuel, Asur Lignov Dat Abriot, Afilu Dat Shelovet Kochavim. Car Shmuel a dit, il est interdit de voler la reconnaissance des gens qui ne nous est pas due, même s'il s'agit d'idolâtres. Ve'ad Shmuel, Lavde Firush Itmar, et la Michlala Itmar. L'enseignement de Shmuel n'a pas été dit par lui explicitement, mais la Gemara a déduit de son comportement que c'est ainsi qu'il pensait. Des Shmuel avec à Avar Bemavra. Voici l'anecdote qui a fait déduire cela à la Gemara. Shmuel traversait un fleuve en utilisant l'embarcation d'un passeur. Amarle les Shamé, il dit à son serviteur, Païsé les Mavoré, paye les services de ce passeur. Païsé ve Ikpad. Le serviteur a rétribué le passeur et Shmuel a été mécontent. Maïtahama Ikpad. Pour quelle raison a-t-il été mécontent? Amar Abaye, Tarnegolet Trefa Avai, Veyaivan Yale, Bemar Deshruta. Abaye dit, car le serviteur a donné comme rétribution une poule Taref, en laissant croire au passeur qu'il s'agissait d'une poule Shruta qui avait été abattue rituellement. Bien que ce passeur était un goy et que pour lui il n'y a pas de différence, il y a cependant une question de Gnevat Da'at, car il pensait avoir reçu une rétribution plus importante que ce qu'elle était en réalité. Rav Amar, Anpeka Amarle le Ashkoye, Vashkeye Hamra Meziga. Selon Rava, il y avait une autre raison au mécontentement de Shmuel. La raison était que Shmuel avait dit à son serviteur de rétribuer le passeur avec du vin pur, et le serviteur avait donné du vin qu'il avait coupé en y rajoutant de l'eau. Vechi Michlala Mai. Quelle différence cela peut-il faire si Shmuel a donné son enseignement explicitement ou si la Gemara l'a déduit de son comportement? Si Shmuel a dit explicitement qu'il est interdit de faire Gnevat Da'at d'un goy, il ne sera pas possible de remettre en question cette position. Si en revanche c'est la Gemara qui a déduit cela du comportement de Shmuel, il est possible que le mécontentement de Shmuel ait une autre origine que l'éventuel Gnevat Da'at du goy. Les mande amar trefa avai, amar le amai tishe isure. D'après Abaye, qui dit que Shmuel a reproché à son serviteur d'avoir donné une poule trefa, le sens de ce reproche était peut-être, pourquoi gardes-tu un animal taref, alors que tu aurais dû le jeter? Mais peut-être que ce reproche n'était pas à cause de la gneva da'at du goy. Les mande amar anpeka amar le ashkoye, anpeka chaya mashma. D'après Rava, selon qui Shmuel avait dit à son serviteur de rétribuer le passeur avec une anpeka, une bouteille de vin, cela signifiait du vin pur, non dilué. Et peut-être également que le mécontentement de Shmuel n'était pas à cause de la gneva da'at du goy, mais par le manque d'attention que son serviteur prêtait aux demandes de son maître, qui lui avait dit de donner du vin non dilué. Donc la Gemara, dans son souci de précision, nous a signalé que l'enseignement de Shmuel ne nous avait pas été donné explicitement par lui, mais qu'il avait été déduit par la Gemara, et qu'il y aurait éventuellement possibilité, à un sage qui en aurait les arguments, de remettre en question cette décision. L'auteur du Sefer Chaye Nefesh, rapporté dans le Knesset Agdola, dit que l'on n'a pas le droit de conserver à la maison un aliment non cachère interdit à la consommation. Pas seulement pour le Hametz, où l'on sait que la Torah interdit de le conserver pendant Pessah, mais pour tout aliment interdit. Le Mincha Trinu apporte à cet enseignement une source de notre Gemara, où l'on voit que le mécontentement de Shmuel aurait été motivé par le fait que son serviteur ait gardé l'animal Taref sur lui. Tanya Aya Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir nous donne quatre exemples de transgression de Gnevat Da'at. Al Yisarev Adam le Chaveru Lisod Etzlo, Veyodea Bo Sheino Soed. On n'a pas le droit d'insister pour inviter quelqu'un à manger chez nous, alors qu'on sait qu'en général, il refuse les invitations. Si on l'invite de bon cœur, il n'y a pas de problème. Mais l'interdiction est ici parce qu'en fait, il ne veut pas l'inviter, et son invitation est seulement hypocrite. Il lui fait croire qu'il veut le recevoir, alors qu'en fait, il se base sur le fait qu'il sait qu'il va refuser. Velo yarbelo betikrovet, veyodea bo sheino mekabel. Il ne doit pas redoubler les cadeaux qu'il lui envoie, Alors qu'il sait qu'en général il refuse les cadeaux. Les gens avaient à l'époque l'habitude de conserver leur vin dans des fûts, et dès qu'on ouvrait ce tonneau, le vin qui restait à l'intérieur s'abîmait. Mais pour honorer un invité de marque, on n'hésitait pas à ouvrir en son honneur un nouveau tonneau, quand bien même le vin restant se détériorerait. Il y avait un autre cas dans lequel on ne se gênait pas pour ouvrir un nouveau tonneau, c'est si ce tonneau était déjà vendu à un marchand, et à ce moment-là, on savait que le vin restant ne séjournerait pas longtemps et donc ne perdrait rien de sa valeur. Dans le cas où le contenu de ce tonneau est déjà vendu à un marchand, on n'a pas le droit de l'ouvrir devant un invité et de lui laisser croire que c'est en son honneur qu'on ouvre ce nouveau tonneau pour ne pas transgresser l'interdiction de Gnevat Da'at. Mais si on aurait ouvert ce tonneau pour lui, même s'il n'était pas vendu, il n'y aura aucun problème à le faire, même maintenant qu'il est vendu. Il n'y aura non plus aucun problème à ouvrir ce tonneau devant lui s'il a informé que ce vin est déjà vendu et que c'est pour ça qu'il l'ouvre, car ça ne représente pas pour lui une grosse perte financière. Il y avait également l'habitude à l'époque de soindre le corps avec de l'huile parfumée. Il n'aura pas le droit de proposer à son invité de soindre en lui tendant un flacon vide, car il sait que cet invité va refuser. En effet, là encore, ses paroles ne traduisent pas le sentiment qu'il a dans le cœur, et son invitation est hypocrite, elle est basée sur le fait qu'il va refuser. La Braïta finit en disant « Ve'im bishvil kvodo mutar » Si c'est pour son honneur, il sera permis de le faire. Cela se rapporte à l'ensemble des cas de la Braïta, et cela nous apprend que l'interdiction est seulement s'il veut, par ses paroles, être gonev da'at, c'est-à-dire s'approprier de façon indue un sentiment de reconnaissance de la part de l'autre. Mais si sa motivation est bishvil kvodo, c'est-à-dire selon Rashi, montrer aux gens combien cet être lui est cher, au point qu'il veut l'inviter, lui donner des cadeaux, lui donner de l'huile, et qu'il ne se contente pas d'une proposition, mais qu'il insiste, dans ce cas-là, il n'y aura pas d'interdiction, même s'il sait d'avance que cet invité va refuser toutes ses propositions. Le Sma, dans le Shulchan Arour, Choshen Mishpat, chapitre Resh Kafret, remarque qu'il y a une différence dans cette braïta entre le cas de l'huile et les autres cas. En effet, dans le cas de l'invitation ou des cadeaux, on parle de quelqu'un qui a de quoi inviter et qui fait de réels cadeaux. Alors que pour l'huile, l'expression de la braïta est qu'on ne transgresse que si on présente un flacon d'huile vide. Et donc qu'on n'aurait pas transgressé si ce flacon n'avait pas été vide, même si l'on était sûr de s'attendre à un refus. Autre différence, dans l'invitation ou les cadeaux, l'interdiction est d'insister, alors que dans le cas de l'huile, même proposer une fois est déjà interdit. En effet, interdire une fois quelqu'un ne peut pas être interdit, car même si l'on sait qu'il va refuser, c'est une marque de considération que de l'inviter une fois. Si en revanche, on ne l'invite jamais car on sait qu'il va refuser, cela peut être considéré comme du mépris. C'est pour cela que le problème de Gnevat Da'at n'existe que dans le cas où il y a insistance. En revanche, dans le cas de l'huile, l'invité est déjà à la maison. Ne pas faire cette proposition ne serait pas pris comme une marque de mépris. Donc même une seule proposition sera déjà interdite, seulement quand le flacon est vide. En revanche, quand le flacon est plein, ça sera l'insistance qui sera interdite si on sait que l'invité refuse de toute façon. C'est donc le chidouche, l'enseignement nouveau, pour lequel cette braïta de Rabbi Meir nous a apporté le troisième cas de l'huile. Nous reprenons la Gemara. Eni, la Gemara s'étonne sur le comportement d'un amoura qui semble contradictoire avec cette braïta. Veha, oula ikla lebe Rav Yehuda, patar lo chaviot amechurot lechen vani. Pourtant, oula s'est rendu une fois chez Rav Yehuda, et celui-ci a ouvert pour Oula des tonneaux qui étaient déjà vendus à un marchand. La Gemara donne deux réponses possibles, au Doué, au Daï. Ou bien Rav Yehuda avait fait savoir à Oula cela. Veibaitema, si tu veux, je te dirai une seconde réponse. Shane Oula, de Chavivle le Rav Yehuda, de Belavachi Nami, de Toche Miftachle. C'est différent dans le cas de Oula, qui est si cher à Rav Yehuda que même sans cela, il aurait ouvert un nouveau tonneau pour lui. Donc il n'y a pas eu, de la part de Rav Yehuda, de Gnevat Da'at. Quel est le chidouche, l'enseignement nouveau que nous apporte la Gemara dans cette deuxième réponse, en nous disant que Oula était très cher pour Rav Yehuda? On a déjà compris que l'interdiction de Gnevat Da'at n'existe que quand l'intention de celui qui fait la proposition n'est pas entière et qu'il compte sur un refus. Mais s'il voulait de toute façon ouvrir ce tonneau pour son invité, il est clair qu'il peut le faire, même lorsqu'il est vendu. Le Lev Arié répond que ce n'est pas toujours que l'homme sait analyser son réel sentiment. Lorsqu'il sait qu'il doit vendre ses tonneaux, il pense que même sans cela, il aurait aussi ouvert un tonneau pour l'invité. Mais cette supposition n'est pas toujours exacte. Et parfois, c'est uniquement le fait que ce tonneau soit déjà vendu qui le laisse penser qu'il l'aurait de toute façon ouvert. Mais peut-être que si au dernier moment le commerçant l'avait informé qu'il ne voulait plus acheter ce tonneau, dans ce cas-là, il n'aurait pas si facilement ouvert ce tonneau. Et voici l'enseignement que la Gemara veut nous transmettre en nous rapportant ce cas, que seulement une personne de la stature de Rav Yehuda, qui a sur lui-même une clarté suffisante pour être sûr que même sans la vente du tonneau, il l'aurait ouvert pour son ami Oula, seulement lui pourra ouvrir ce tonneau sans signaler qu'il est déjà vendu. Tanu Rabbanan, lo yelech adam libet ha'avel ou beyado lagin amit kashkash. On avait l'habitude d'emmener chez les endeuillés des cruches de vin pour les réconforter et appliquer le pasouk Tenu shechar la oved veyain le mare nefesh, donner du vin à l'affligé. Et cette braïta nous dit que l'on ne doit pas aller chez l'endeuillé en ayant en main des cruches qui sont mitkashkash, c'est-à-dire qui font du bruit, parce qu'elles sont à moitié pleines. Et laisser croire à l'endeuillé qu'on lui apporte des cruches pleines. Veloim alenu maim, de même il ne doit pas les remplir ou les compléter avec de l'eau. Mipne shemat eu, car il le trompe. Veim yesh sham chever ir, mutar. Mais s'il y a chever ir, il sera permis de le faire. Deux explications pour Chever Ir. Rachid dit, si c'est pour le monde, c'est-à-dire si on ne marque pas l'attention suffisante à cet endeuillé, et il y a à craindre que les gens ne viennent pas être Menachem, ne viennent pas le consoler, en amenant chez lui des cruches, même à moitié vides, on témoigne par cela de l'intérêt à cet endeuillé, les gens vont comprendre qu'il s'agit de quelqu'un d'important et vont être encouragés à faire de même. Si telle est notre intention, il n'y a aucun problème à venir chez l'endeuillé avec des cruches à moitié vides. Rabbi Gershom dit, Chever Ir, si l'endeuillé est un Talmid Racham, un sage, et que l'on veut témoigner l'honneur qui est dû à la Torah que cet homme détient, il sera également permis de venir avec des cruches qui ne sont pas pleines. Tanu Rabbanan, Loim Kor Adam Lechavero, Sandal Shel Meta, Bichlal Shel Chaya Shruta. On n'a pas le droit de vendre à quelqu'un une chaussure confectionné avec le cuir d'un animal mort de lui-même, comme s'il s'agissait du cuir d'un animal charout abattu rituellement. Mipne shne dvarim, ceci pour deux raisons. Achat mipne shemat eu, la première, c'est parce qu'il le trompe. En effet, un animal mort d'une autre façon que par abattage était peut-être malade, et donc il est possible que son cuir ne soit pas aussi résistant que celui d'un animal qui a été abattu rituellement, qui était lui en bonne santé. Ve'achat mipnei ha'sakana, la seconde raison est qu'il peut y avoir un danger. Il s'agit du cas où cet animal est mort par une morsure de serpent, et le venin qui imprègne le cuir pourrait pénétrer dans le pied de l'homme qui porterait ses chaussures, s'il a une blessure par exemple. Le Gaon de Vilna voit une allusion à cela dans le verset Tetvav du Perek Gimel de Bereshit, où le Nahash, le serpent originel, reçoit sa malédiction, dans les mots Ve'ata teshufen wakev, tu le blesseras au talon, dont notre Gemara est ici une illustration, dans laquelle le venin endommage indirectement, en pénétrant d'abord dans la peau de l'animal, dont on fait ensuite une sandale, et le venin sera ensuite susceptible de pénétrer dans le pied de l'homme qui portera cette sandale. Veloi shager adam le chavero chavit shel yain veshemen tzaf al pia. Il ne faut pas envoyer à quelqu'un un tonneau de vin au-dessus duquel flotte une couche d'huile Ce qui laisse donc à penser qu'il s'agit d'un tonneau d'huile. Car il y a eu un cas où quelqu'un a envoyé justement un tonneau de vin avec une couche d'huile qui flottait à la surface. Celui qui a reçu le tonneau est allé inviter un certain nombre de personnes en comptant sur la quantité d'huile qu'il avait dans le tonneau. Il s'est aperçu que c'était un tonneau de vin alors que les invités étaient déjà là et il s'est étranglé. Tellement il avait honte, dit Rashi, de ne rien avoir à leur proposer à manger. Ve'en ha'ochrin rasha'in liten mima shelifneem libno ou libito shel bal ha'bayit ela im ken atlu reshut mi bal ha'bayit. Les invités n'ont pas le droit de donner de la part qu'ils reçoivent aux enfants du maître de maison, seulement s'ils en ont demandé la permission. Il y a eu un cas où quelqu'un a invité trois personnes dans une année de disette, de famine. Et il n'avait rien d'autre à leur proposer que trois œufs, un chacun. L'un des invités a pris sa part, a pris son œuf et l'a donné à l'enfant. Ainsi a fait le deuxième invité et le troisième. Baviv Sheltinok, Matsao, Sheozek Echad Befiv, Veshtaim Beyado. Le père de l'enfant qui s'était absenté quelques instants revient et trouve son fils qui tient un œuf dans la bouche et deux dans les mains. Chavto Bekarka, Oumet. De colère, il lui a donné un coup qui l'a fait tomber au sol et dont il est mort. Sa mère, voyant cela, est montée sur le toit et en est tombée et elle est morte. Le père également, devant cette catastrophe, s'est jeté du toit et est mort. Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, à cause de cette chose-là, trois personnes du peuple d'Israël ont été tuées. Maïka Mashmalan. Qu'est-ce que cette remarque à la fin de la Braïta vient nous apprendre? Des Kula Rabbi Eliezer ben Yaakov. La Braïta conclut en nous donnant l'auteur de cet enseignement pour nous dire que toute cette Braïta, depuis Tanou Rabbanan, Loïm Kor Adam Lechavero, Sandal Shelmeta, a été entièrement enseignée par Rabbi Eliezer ben Yaakov. Tanou Rabbanan, la Gemara apporte une Braïta. Asholeach Yerech Lechavero, Shlema, Enot Sarir Sheito Limena Gida Nashe, Chatura. Celui qui envoie une hanche d'animal à un autre Yehudi, si cette hanche est entière, il n'a pas besoin d'en retirer le nerf sciatique. Si elle est découpée, il doit le faire. Ubervet Kuchavim, Ben Chatucha, Ben Shlema, En Tsarich Litolimena Gidanashe. S'il l'envoie à un goy, que la hanche soit entière ou découpée, il n'a pas besoin d'en retirer le nerf sciatique. Nous avons appris dans notre Mishnah que dans le cas où on envoie une hanche découpée, il faut en retirer le nerf sciatique. Et la Gemara va expliquer pourquoi cette Braïta dit différemment. Umipne shne dvarim amru en mochin nevelot vetrefot leuvet kochavim. Il y a deux raisons pour lesquelles il est interdit de vendre un animal non kasher à un goy. Une nevela est un animal qui est mort sans shrita, sans abattage rituel. Et une tréfa est un animal sur lequel il a été trouvé un défaut après l'abattage. Echad mipne shemateu, une des raisons est que l'on trompe ce goy, car même lorsqu'on ne dit rien, il va penser qu'il s'agit de viande cachère. Mais évidemment, si on l'a prévenu qu'il s'agit d'une viande de nevela ou tréfa, il n'y a pas de knevaldaat. Ve'echad shemayarzor v'inkarna l'Israël acher. La seconde raison est que peut-être que ce goy va revendre cette viande de nevela ou tréfa à un autre Yehudi. Velo yomar adam leuvet kochavim, kach li bedinar ze basar. On n'a pas le droit de dire à un goy, va m'acheter de la viande pour la valeur de cette somme de un dinar. Mipne shne dvarim, ceci pour deux raisons. Nous tournons la page.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous passons à Daf Tzadik, Dalet Amud Bet.
Echad mipne anasim, La première est que ce goy pourrait être une personne malhonnête qui va prendre la viande de force du boucher sans le payer. Ve'echad shema mochin lo nivelot ve'trefot. La seconde est que le boucher, voyant un goy dans la boucherie, va lui vendre de la viande nevela ou trefa, que cet envoyé goy va ramener au Yehudi. Ici se finit la braïta, qui comprend donc trois enseignements. Le premier est que si on envoie une hanche d'animal à un Yehudi, il faut prélever le nerf sciatique seulement si cette hanche est découpée. Si on l'envoie à un goy, c'est pas la peine de prélever le nerf sciatique, que l'hanche soit découpée ou entière. Le second enseignement est qu'on ne vend pas de la viande nevela ou trefa à un goy pour deux raisons, pour gnevadat et également de peur qu'il ne le revende à un autre Yehudi. Le troisième enseignement est qu'on n'envoie pas un goy nous acheter de la viande pour deux raisons. L'une parce que peut-être qu'il va escroquer le boucher, et la seconde parce que le boucher va peut-être lui vendre de la viande nevela ou trefa. Amar Mar, la Gemara fait le commentaire de cette braïta. Ubovet kochavim ben shlema ben chatucha eno tzarich litol imeno gidanashe. On a dit au début de la braïta que lorsqu'on envoie une hanche à un goy, dans tous les cas, c'est pas la peine d'en prélever le nerf sciatique. Bama yaskinan. Dans quel cas parle cette braïta? Ilima bemakom shema chizin. S'il s'agit d'un endroit où lorsqu'il y a une tréfa dans la boucherie, on l'annonce dans la ville. Et donc le jour où il y a une annonce, on n'achète pas de viande d'égoïm, mais les autres jours, on en achète. Pourquoi ne faudrait-il pas prélever le nerf sciatique lorsqu'on envoie une hanche découpée en morceaux? S'il s'agit d'un jour où il n'y a pas eu d'annonce, il est fort possible qu'un Yehudi vienne acheter les morceaux de hanche à ce goy. Reprenons dans les mots de la Gemara. Ilema bimkom shema chizin. S'il s'agit dans un endroit où on fait les annonces, chatucha amayeno tzarech litol imenagi danashe. Dans le cas d'une hanche découpée en morceaux, pourquoi ne faudrait-il pas prélever le nerf sciatique? Kevan delo achuz, atelemis van mine. Comme il s'agit d'un jour où on n'a pas annoncé, le Yehudi va être amené à acheter du goy. Et la pshita, bimkom she en machrizin. Il est donc évident que le premier enseignement a été donné dans le cas d'un endroit où on ne fait pas d'annonce. Ema metziata, je te dirai alors que dans l'enseignement du milieu, dans le second enseignement, mipne shne dvarim amru en mochin nevelot vetrefot leovet kochavim, qui était qu'il y a deux raisons pour lesquelles on ne vend pas de nevela et trefa à un goy, echad mipne shemateu. L'une parce qu'il le trompe et enfreint l'interdit de Gnevadat, ve'echad shemayar zor ve'imkarna l'Israël acher, et la seconde parce que peut-être que ce goy va revendre la viande à un autre Yehudi, ve'ibim kom shen machizin, a loat el misvan mine. Et si la Braïta parle effectivement pour un endroit où on ne fait pas d'annonce, un Yehudi dans un tel endroit n'achète jamais de viande chez un goy, et la pshita, bim kom shen machizin. Il est donc évident que ce deuxième enseignement a été donné pour un endroit où lorsqu'il y a un animal très fin trouvé dans la boucherie, on fait l'annonce. Et donc il y a l'éventualité que lorsqu'il n'y a pas d'annonce, un Yehudi achète de la viande chez un goy. Emma Seifa, je te dirai au sujet de la fin de la Braïta, du troisième enseignement. Lo yomar adam leovet kochavim, kach li bedinar ze basar. On ne doit pas dire à un goy, va m'acheter de la viande pour cette somme de 1 dinar. Mipne shne dvarim, à cause de deux raisons. Echad mipne anasim ve'echad shema mochim lo nevelot ou trefot, pour éviter l'escroquerie du boucher éventuel de la part du goy, et également car ce boucher peut lui vendre de la viande nevela ou trefa. Ve'ibim kom shema chrizin. Et si la braïta parle, comme on l'a établi pour le deuxième enseignement, d'un endroit dans lequel on fait les annonces, lorsqu'il trouvait un animal taref, i ita derve trefa, achuze avumacheze, s'il y avait eu un animal taref dans la boucherie, l'annonce en aurait été faite. Donc pourquoi interdire d'envoyer un goy nous acheter de la viande lorsqu'il s'agit d'un jour où il n'y a pas eu d'annonce de fait? Dans ce cas-là, en effet, la seconde raison, qui est la crainte que le boucher va peut-être lui vendre de la viande nevrela ou trefa, n'est pas justifiée. Et la pshita bemakom shen machrizin. Il est donc clair que la fin de la braïta parle dans le cas d'un endroit où on ne fait pas d'annonce. Recha vesefa bemakom shen machrizin. Metziata bemakom shema chizin. Est-il possible que le début et la fin de la braïta parlent dans le cas d'un endroit où on n'annonce pas et que le milieu de la braïta soit dit dans le cas d'un endroit où on annonce? Il est tout à fait inhabituel qu'une braïta enseigne trois cas dont le premier et le dernier sont dits dans un certain contexte et le cas intermédiaire dans un autre contexte. Amar Abaye, in resha vesefa b'makom shen machizin ou metziata b'makom shen machizin. Abaye dit effectivement, faute de meilleure explication, on est contraint d'établir ainsi la braïta. Le début et la fin sont dits dans le cas d'un endroit où on n'annonce pas, et le milieu de la braïta dans un endroit où on annonce. Et c'est pour cela qu'il y aura à craindre, si on vend un goy de la viande nevela ou trefa, qu'il la revende à un autre yehudi. Rava et Ravashi vont proposer tous les deux des explications de la braïta, dans lesquelles on n'est pas obligé de faire parler la braïta dans deux contextes différents. Rava amar kula mimakom shemachrizin. Rava dit toute la braïta parle d'un endroit où on annonce. Recha vesefa sheirchizu, metziata shelo irchizu. Le début et la fin de la braïta parlent dans le cas où on a fait l'annonce qu'il y avait un animal très fin, et le milieu parle dans le cas où on n'a pas fait l'annonce par cas de force majeure. Reprenons les trois cas de la braïta tels qu'ils sont expliqués par Rava. Le premier cas nous dit qu'on peut envoyer un yérer, une hanche d'animal à un goy, qu'il soit entier ou découpé, sans en retirer le nerf sciatique, et sans crainte qu'un yéhoudi ne l'achète, car il s'agit d'un endroit où on annonce, et d'un jour où on a annoncé qu'il y a un animal très fin. Donc aucun yéhoudi ne va acheter d'un goy. De même, la fin de la braïta s'explique également dans le cas où on a annoncé qu'il y avait un animal taref. C'est pour cela qu'on n'enverra pas un goy nous acheter de la viande, de crainte que le boucher va lui vendre justement de la viande de cet animal. Le milieu de la braïta, qui nous dit qu'on n'a pas le droit de vendre de la viande nevela ou trefa à un goy, parle toujours pour un endroit où d'habitude on annonce lorsqu'il y a un animal trefa, mais ce jour-là, il y a eu un cas de force majeure et l'annonce n'a pas été faite. Il y a donc à craindre qu'un yéhoudi, n'ayant pas entendu d'annonce aujourd'hui, en vienne d'acheter de la viande au goy. C'est pour cela que un tel jour, on ne vendra pas de viande nevela ou trefa à un goy. Ravashi amar kula b'makom shen machrizin. Ravashi propose d'expliquer la braïta dans le cas où jamais une annonce de viande trefa n'est faite dans la communauté. Umetziata gzera shema yimkarna bifnei Israël. Et le cas intermédiaire de la braïta, qui dit qu'on n'a pas le droit de vendre de viande nevela ou trefa à un goy, est un décret, une mesure préventive prise dans le cas où la vente serait faite devant un autre yéhoudi. La braïta s'explique ainsi d'après Ravashi. Le premier cas nous dit qu'on peut envoyer une hanche d'animal entière ou découpée à un goy sans enlever le nerf sciatique. En effet, il s'agit d'un endroit où on n'annonce pas, donc jamais un yéhoudi n'achète de la viande d'un goy. De même, la fin de la braïta s'explique facilement. On n'enverra pas un goy nous acheter de la viande, car il est fort possible que le boucher lui vende de la viande nevela ou trefa. Quant au milieu de la braïta, qui nous dit de ne pas vendre de la viande nevela ou trefa à un goy, de peur qu'il le vende à un autre yéhoudi, si c'est un endroit où de toute façon on n'annonce pas, donc pourquoi envisager une telle éventualité qu'un yéhoudi va acheter de la viande d'un goy? La Gemara nous dit qu'il s'agit d'un décret pris au cas où la vente aurait été faite devant un autre yéhoudi. Si un boucher kasher vend de la viande nevela ou trefa à un goy devant un autre yéhoudi sans informer celui-ci que cette viande est taref, il est à craindre que cet autre yéhoudi ou quelqu'un que celui-ci aurait mis au courant achète cette viande de ce goy. C'est pour cela que dans le cas intermédiaire, la braïta nous demande de ne pas vendre de la viande nevela ou trefa à un goy. Rashi pose une question sur l'explication de Ravashi. Nous venons en effet d'apprendre que du cas intermédiaire, on apprend que même dans un endroit où on n'annonce pas, il y a quand même une crainte qu'un yéhoudi vienne acheter la viande du goy. Comment, dans ce cas, le début de la braïta permet-elle d'envoyer une hanche d'animal découpée à un goy sans en retirer le nerf sciatique? Pourquoi, dans ce cas-là, ne pas craindre également qu'il y ait un observateur yéhoudi qui sache que ces morceaux de hanche découpés ont été envoyés par un autre yéhoudi et en viennent à les acheter de ce goy? D'autant plus que lorsque nous avons expliqué notre Mishnah dans le cas d'un endroit où en makrizin, où on n'annonce pas lorsqu'il y a un animal très fin, on a dit que la raison pour laquelle la Mishnah permet d'envoyer un goy seulement une hanche entière est justement par crainte qu'un observateur yéhoudi assiste à la transaction. et pourrait être amené, si l'on avait envoyé des morceaux de hanche, à les racheter du goy. Rashi répond que selon Rav Ashi, la Braïta est en désaccord avec la Mishnah. Et selon la Braïta, il est permis d'envoyer un goy, même des morceaux de hanche contenant le nerf sciatique. Pourquoi dans ce cas-là, dans le cas intermédiaire de la Braïta, où on interdit de vendre de la viande nevela ou trefa à un goy, Rav Ashi tient compte quand même du fait qu'il y a peut-être un observateur yéhoudi, car il s'agit là d'une vente de viande qui peut être faite par un boucher. Et donc là, il y a beaucoup de monde qui peuvent voir que cette viande a été vendue à un goy, sans prendre la peine de demander la nature de cette viande, et ils peuvent donc être amenés à la racheter du goy. Mais dans le cas où il s'agit d'un particulier qui expédie une hanche d'animal à un goy, le fait qu'il y ait un observateur est beaucoup moins fréquent, et même si cela peut arriver, ça ne nécessite pas, selon Rav Ashi, que l'on fasse un décret général et qu'on interdise à chacun d'envoyer des morceaux de hanche sans en retirer le nerf sciatique. La Gemara continue. Echi machrizinan. Comment faisait-on l'annonce qu'il y avait de la viande taref dans les endroits où on le faisait? Amar Rav Yitzhak bar Yosef, nafal bisra le benechela. Rav Yitzhak bar Yosef disait, ainsi fait-on l'annonce, il est tombé chez nous de la viande destinée aux goyim. La Gemara demande, velema nafal trefata le benechela. Pourquoi ne pas dire il y a de la viande tréfa destinée au goïm? La Gemara répond l'osavne. Si l'on disait ainsi, en annonçant que la viande qui leur est destinée n'est pas consommable pour les Yehudim, cette viande serait dépréciée à leurs yeux et ils n'achèteraient pas. La Gemara demande vea kamat eleu. De cette façon, on les trompe et il y a un problème de gnevadat. Enhu hu de kamateu nafshereu. La Gemara répond dans ce cas-là, eux-mêmes se trompent tout seuls. Là où il est interdit de faire gnevat da'at, c'est seulement quand de façon active, on fait entendre que la chose vendue est de bonne qualité. Mais si l'on vend de la viande et que le goy qui l'achète ne demande pas si cette viande est tréfa ou kshera, même s'il pense acheter de la viande kachère, il n'y aura pas l'interdiction de gnevat da'at. Rashi dit, et dans la Gemara plus haut, lorsqu'il est interdit de vendre de la viande morte naturellement en tant que viande abattue rituellement, ou d'ouvrir un nouveau tonneau devant un invité alors qu'il est déjà vendu. On enfreint l'interdit de gnevat da'at seulement si on dit clairement qu'il s'agit de viande cachère, abattue rituellement, ou que l'on ouvre le tonneau spécialement pour l'invité. Mais si la personne se trompe d'elle-même, sans qu'on ne l'ait induit en erreur activement, il n'y a pas de gnevat da'at. Tosfot est en désaccord avec Rashi sur ce point, et pense qu'il y a parfois gnevat da'at, même quand on n'a rien fait d'actif pour induire la personne en erreur, lorsque la situation parle d'elle-même. En effet, lorsque l'invité voit que l'on ouvre un tonneau neuf devant lui, il est tout à fait en droit de croire que c'est en son honneur qu'on le fait, même si on n'a rien dit. Alors que le goy qui achète de la viande chez un boucher cachère, sait très bien qu'il n'y a pas que de la viande cachère, qu'il y a parfois de la viande nevela ou trefa. L'abattage peut être non valide. Il n'a donc pas sur quoi s'appuyer pour supposer, dans un cas où on ne lui précise rien, que cette viande est cachère. Tel est l'avis de Tosfot. La Gemara apporte un autre exemple dans lequel on voit quelqu'un se tromper tout seul. Kia de Marzoutra, Bere de Rav Nachman, Avek Haazil, Misichra, Lebe Mechouza. Il est arrivé que Marzoutra, Bere de Rav Nachman, se rendait de l'endroit nommé Sichra à l'endroit nommé Be Mechouza. Verava verav Safra, avukatu le Sichra. Et Rava et Rav Safra se rendaient en sens inverse à Sichra. Pagvu a Hadade. Ils se sont rencontrés, ou Savar le Ape ou de Kaatu. Marzoutra a pensé que Rava et Rav Safra venaient l'accueillir. Amar Lehu, Lama Lehu le Rabbanan, Detroar Veatu Kuleai. Pourquoi les maîtres se sont-ils déplacés et tellement dérangés? Amar le Rav Safra, Anan lo aviyadinan deka atemar, i aviyadinan tve avetachinan. Rav Safra lui répondit, nous ne savions pas que vous veniez, mais si nous l'avions su, nous nous serions certainement dérangés davantage. Amar le Rava, maita ama amart le achi, de achlish te le date. Rava a demandé à Rav Safra après cela, pourquoi lui as-tu dit la vérité? Tu l'as certainement mis mal à l'aise. et tu lui as fait de la peine. Amarle, ve'akamati inanle. Rav Safra répond à Rava, si je ne l'avais pas fait, on l'aurait trompé et il aurait été reconnaissant envers nous de façon injustifiée. Ihu hudekamate nafshe. Rava répond à Rav Safra, il n'y aurait pas eu de problème de gnevat da'at, car c'est lui-même qui s'est trompé en imaginant des choses fausses, alors que tu n'as rien fait pour qu'il croie que tu t'es déplacé en son honneur. La Gemara, dans Makot d'Af Kaf Dalet, pour illustrer la parole de David Ameler dans Tehilim, qui dit « Dover Emet Bilvavo », celui qui parle vrai dans son cœur, donne comme exemple Rav Safra lui-même. Un exemple de son comportement, un acheteur s'approchait de Rav Safra pour lui acheter ce que Rav Safra avait à vendre, et Rav Safra était en train de faire la tfila. L'acheteur a proposé un certain prix, et comme Rav Safra ne répondait pas, l'acheteur a pensé que ce prix était insuffisant aux yeux de Rav Safra. Il l'a donc augmenté de beaucoup. Lorsque Rav Safra a eu fini sa tfila, il dit à l'acheteur, j'accepte de te vendre l'objet pour la première somme que tu as proposée, car lorsque je l'ai entendu, j'étais d'accord pour te vendre l'objet à ce prix. Notre Gemara donne également une illustration du sens de la vérité que Rav Safra travaillait de façon extrêmement poussée. David Ameler, dans ce Tehilim Tetvav, dit lui-même dans le verset suivant « Lo'asa l'ere'u ra » celui qui ne fait pas de mal à son prochain. Il s'agit peut-être de la motivation de la remarque de Rava qui dit à Rav Safra « Tu peux chercher à être quelqu'un d'une sincérité absolue à condition que ta recherche de la vérité ne cause pas de tort à autrui. » Fin du cours sur le Daf Tzadik Dalet. Masechet Chulin, Daf Tzadik He, le cours commence à la dernière ligne du Daf Tzadik Dalet Amud Bet. Aoutavra de Amarle le Chavre. La Gemara nous rapporte un fait dans lequel un Shochet a dit un jour à une connaissance à lui qu'il n'aimait pas particulièrement. Nous passons au Daf Tzadik He Amud Alev.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.